Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Déclassification littéraire, l'émission qui vulgarise les classiques que vous n'avez pas lus ou qui vous propose de découvrir ceux dont vous ne connaissiez pas l'existence. La dernière fois, on a fait un tour en Espagne pour suivre les aventures de Don Quichotte, mais aujourd'hui, on va revenir à Dijon avec un auteur que très peu d'entre vous connaissent, Aloysius Bertrand. Alors, son véritable nom, c'était Louis Bertrand. Mais il en a choisi une interprétation plus latine comme nom de plume afin de s'inscrire dans la lignée du romantisme dont il était l'un des précurseurs. Alors le romantisme, on ne présente plus, hein, c'est ce mouvement des poètes qui s'arrachent le cœur sur l'autel du lyrisme, des auteurs qui conjurent l'amour sous toutes ses formes, et surtout une période de modernisation de la littérature sous toutes ses formes. Et si je liste les noms, ils vous seront sûrement familiers. Alfred de Musset, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, tout ce mouvement en fait qui mènera ensuite au symbolisme et à Charles Baudelaire par exemple. Et ce qui est amusant, c'est qu'on présente très souvent Baudelaire comme le premier poète français à écrire en prose, alors qu'il n'en est rien. La paternité de la poésie en prose est en réalité attribuée à notre auteur du jour, Aloysius Bertrand. Et vous savez de qui on tient cette source? On la tient de Charles Baudelaire lui-même. On reviendra là-dessus un petit peu tout à l'heure, mais pour commencer, laissez-moi vous présenter un peu plus sérieusement Louis-Jacques-Napoléon Bertrand, aussi connu sous le pseudonyme d'Aloysius Bertrand. Et maintenant que j'ai attisé votre curiosité, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Ray Malville et je vous invite à me suivre dans ce second épisode qui s'intitule « Promenade avec le diable ». Donc, comme d'habitude, on va commencer par parler un peu de qui était Aloysius Bertrand. Il est né en 1807 à Ceva, dans le Piémont, donc en Italie. Et si sa mère, elle était bien italienne, son père, lui, était issu d'une famille française dans laquelle la tradition militaire était très ancrée. Et c'est d'ailleurs à la suite d'une mutation de son père que notre copain Aloysius, il atterrira à Dijon, où il passera la majeure partie de sa vie. Et pour la petite histoire, il a été élève au Collège Royal de Dijon, que vous connaissez certainement maintenant sous le nom de Collège Marcel Pardet. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, la vie de Aloysius Bertrand, vous allez l'entendre un petit peu, elle est très bien documentée, alors que pourtant c'était quelqu'un d'assez discret. Toutes les publications de son vivant sont passées relativement inaperçues, pourtant il a été en contact et complimenté par beaucoup de figures influentes de son époque, comme Victor Hugo, que je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter, comme Sainte-Beuve, qui était un critique littéraire très influent au début du XIXe siècle, et même la reine de France de l'époque, Marie-Amélie de Bourbon, qui paiera quelques-unes de ses dettes, parce que vous le saurez un peu plus tard, mais Bertrand, il a globalement vécu dans la misère. Il s'est d'ailleurs pas contenté de vivre dans la misère, puisqu'il est aussi mort dans la misère. Il est mort d'ailleurs très seul et assez méconnu, et surtout très jeune, il avait à peine 34 ans. Il était isolé de sa famille, et il avait pour seul proche le sculpteur David d'Angers, qui sera d'ailleurs la seule personne présente à son enterrement. Et si la raison de cette mort prématurée elle est connue, c'est une tuberculose qui ne lui a laissé aucune chance, les biographes de Bertrand y sont un petit peu partagés concernant l'explication de son isolement et de sa pauvreté. Mais le consensus à ce sujet et à ce jour semble être que les relations familiales avec sa mère étaient tendues depuis la mort de son père quelques années auparavant, et ça causait à Bertrand une certaine pression financière puisqu'il devait entretenir sa famille. Et donc son seul livre complet, il est paru à titre posthume, grâce à Sainte-Beuve et à David d'Angers qui ont souhaité assurer la postérité de cet auteur que eux trouvaient talentueux et intéressant. De son vivant, Aloysius Bertrand, il a cherché à faire éditer cet ouvrage, mais il n'a pas eu beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de ce qu'on va qualifier d'accidents éditoriaux à cette période-là. Et donc, grâce à ses amis, il est passé à la postérité. Cette postérité, elle s'appelle Gaspard de la Nuit. C'est le livre qui nous intéresse aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à sa sortie en 1842, il s'en est vendu à peu près 20 exemplaires, ce qui est vraiment de l'ordre du flop, même pour l'époque. Et si ce texte n'a pas intéressé grand monde lorsqu'il est sorti, il ne faudra que quelques années pour qu'il tombe entre les mains de Charles Baudelaire, qui écrira une lettre à Sainte-Beuve dans laquelle il dit ceci.
J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant pour la 20e fois au moins le fameux Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-il pas pourtant tous les droits d'être appelé fameux ? Que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque.
Donc c'est comme ça, c'est grâce au concours de Sainte-Beuve, de David d'Angers et de Charles Baudelaire qu'Aloysius Bertrand il a été sauvé de l'oubli.
passant d'un petit auteur romantique oublié à un précurseur, un pionnier devenu culte pour les symbolistes et surtout l'inventeur du poème en prose en France. Alors, je sais que je me suis un petit peu attardé sur la question du contexte, mais ça me semblait vraiment très important. Et promis, maintenant, on va parler du texte, on va même s'en lire quelques extraits. Mais qu'est-ce que ça raconte Gaspard de la Nuit ? Eh bien, le sous-titre de l'œuvre, il peut nous éclairer un petit peu, puisqu'il est publié sous le nom complet de « Gaspard de la Nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot ». Rembrandt et Callot, donc, ce sont respectivement un peintre et un graveur qui ont en commun d'avoir marqué le XVIIe siècle par leurs approches esthétiques. Des esthétiques qui sont résolument sombres, très gothiques, qui se manifestent très fort dans le texte de Bertrand. Et pour illustrer tout ça, je vous pose directement un premier extrait qui est tiré du poème « Le gibet ».
À Dijon, la rue de la Harpe est si étroite que les murs des maisons d'en face se baissent par-dessus la tête des passants. Les hauts vents s'y touchent et l'on dirait une galerie souterraine percée à jour, où la pluie n'entre jamais qu'à l'heure de midi. Les gargouilles sculptées en dragon, les croisées à vitraux de plomb, les escaliers en colimaçon, les enseignes pendantes qui grincent, tout cela compose une musique bizarre qui semble chanter l'histoire de la ville. La nuit, quand la lune s'y glisse comme une lampe de veille, on jurerait entendre chuchoter les vieilles maisons, se raconter les processions, les incendies et les supplices qu'elles ont vus.
Alors, je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière parce qu'elle mêle assez finement deux des grandes lignes directrices de Gaspard de la Nuit. D'abord, le pittoresque médiéval du décor de la ville de Dijon, cette ville qui est très très souvent personnifiée et qui est vraiment le théâtre de manifestations fantastiques inquiétantes. Et le fantastique, d'ailleurs c'est l'un des cœurs du recueil qui compte tout un tas de figures inquiétantes et mystérieuses. Et il y a notamment celle du nain Scarbeau qu'on retrouve à plusieurs reprises. Et voici comment Bertrand le décrit dans un poème qui lui est consacré.
Oh, que de fois je l'ai entendu et vu, Scarbeau! Quand à minuit la lune resplendit dans le ciel comme un écu d'argent sur un drap d'azur semé d'abeilles d'or. Que de fois j'ai entendu bourdonner son rire dans l'ombre de mon alcôve et grincer son ongle sur la soie des courtines de mon lit. Que de fois je l'ai vu descendre du plafond en pirouettant sur un pied et rouler dans la chambre comme le fuseau tombé des mains de la sorcière. Croyez-vous qu'il disparut ? Le nain s'accroissait entre la lune et moi, comme le clocher d'une cathédrale gothique. Un grelot d'or ballottait à son bonnet pointu. Mais soudain, son corps se bleuissait, diaphane comme la cire d'une bougie. Son visage pâlissait comme la cire d'une bougie. Et tout à coup, il s'éteignait.
En fait, ce qu'on peut dire avec une grande certitude, c'est que l'œuvre de Bertrand, elle est très très gothique. Elle est pleine de secrets inquiétants, de mystères ténébreux, de figures étonnantes. Et c'est là que l'écho de Rembrandt et Callot, que je vous recommande d'aller un petit peu explorer si ça vous intéresse, devient très évident. Il y a également une sorte de fil rouge tout au long du texte dans lequel l'auteur met en scène un personnage nommé Gaspard, qui est celui qui transmet les textes à Bertrand et qui donne son nom au texte. Et ce Gaspard, c'est une allégorie du diable. Mais un diable qui n'est pas un adversaire, plutôt un complice même, un instigateur et parfois un témoin des événements fantastiques et étranges qui prennent place tout au long des petites vignettes qui composent le texte de Gaspard de la Nuit. Et ce personnage de Gaspard, ce personnage du diable, en fait, il permet à Bertrand de lier le macabre au pittoresque, le rêve à l'horreur, la réalité à la vision poétique, et donc on comprend très très facilement comment ce mélange il a pu inspirer, au-delà de sa forme bien sûr, l'esthétique qui a rendu Charles Baudelaire célèbre et puis qui aura, ben, bien sûr, donné naissance au courant des symbolistes. Alors, je pense que vous avez observé, comme on l'a dit au début de l'émission, que c'est de la poésie en prose. Et donc, que la paternité de cette forme poétique, elle est certainement la contribution la plus évidente de Bertrand à la littérature française. Mais on va s'interroger un petit peu plus sur cette question de poésie en prose qui sera reprise et popularisée par Baudelaire un peu plus tard. Et on va se poser ensemble une question extrêmement simple. Pourquoi est-ce que la prose poétique, c'est une forme poétique qui est vraiment essentielle ? Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai des éléments de réponse, et peut-être que ça va vous faire réfléchir, vous donner envie de réagir. Mais déjà, d'après moi, en fait, il faut faire un petit constat. Donc, on va reprendre les bases. Jusqu'au XIXe siècle, la poésie, c'est un genre qui est extrêmement codifié. C'est un format qui se décline donc en vers, qui sont comptés par pied, donc en octosyllabes, en décasyllabes, en alexandrin, vous connaissez la chanson. Ensuite, ces vers deviennent des strophes, donc des tercets lorsqu'il y a trois vers, des quatrains lorsqu'il y a quatre vers, et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi des formats poétiques prédéfinis, comme le sonnet, par exemple, sûrement le plus connu, donc qui est une forme qui comporte quatre quatrains et deux tercets.
Et on va se dire les choses, hein, au 19e siècle, c'est un genre poétique qui peine vraiment à évoluer et qui est perçu comme de plus en plus archaïque et restrictif par les auteurs de l'époque. Donc la prose, qui était jusque-là réservée aux récits purs et durs, aux romans notamment, devient, grâce à Bertrand puis à Baudelaire, une forme poétique beaucoup plus narrative, beaucoup plus immersive. Parce que dans la poésie en prose, on conserve quand même l'ADN de la poésie. La rythmique, la musicalité du texte, bien sûr le vocabulaire. Mais là où la prose poétique, elle puise sa force, c'est dans sa modernité. Et ce nouveau format, comme il est moins restrictif, il s'inscrit dans une période où la ville, qu'il s'agit de Dijon pour Bertrand ou de Paris pour Baudelaire, devient, comme on l'a vu, théâtre mais aussi sujet des textes. Et donc à ce moment-là, la poésie, la prose poétique surtout, elle prend une dimension quasi narrative qui sera poussée encore plus loin par des auteurs comme Rimbaud, comme Mallarmé et globalement les auteurs de la fin du romantisme. Et puis ensuite, ce sera le tour des surréalistes qui déconstruiront le genre, mais un genre qui restera toujours valable, toujours pertinent et en fait qui a toujours une résonance aujourd'hui même dans la littérature contemporaine, mais qui trouve bel et bien ses origines dans Gaspard de la Nuit. Alors, il va être temps de se poser la fameuse question, est-ce qu'il faut lire Gaspard de la Nuit ? Comme souvent, je vais vous dire oui, mais cette fois-ci avec moins de réserve que pour Don Quichotte, parce que Don Quichotte, c'était un très gros livre, enfin, c'est toujours un très gros livre, mais Gaspard de la Nuit, c'est un très petit livre, c'est vraiment une centaine de pages avec 70 poèmes, et surtout parce que c'est des poèmes qui sont assez courts globalement, donc c'est très digeste. Et puis, c'est un livre qui est assez facile à lire. C'est-à-dire que c'est une langue française qui a finalement assez peu évolué depuis l'époque. Donc, à part quelques mots de vocabulaire un petit peu propres à leur période, il n'y a rien qui devrait bloquer le lecteur lambda, le lecteur qui n'est pas habitué à lire beaucoup. Et donc, le lecteur qui connaît un petit peu, il ne sera pas perdu du tout. Et puis, c'est un livre qui est vraiment facile à trouver en poche. Et donc, si vous avez la chance, même le privilège, on va dire, de vivre à Dijon, c'est en plus de ça une façon vraiment sympa d'aborder la ville sous un autre angle, de se promener, d'aller voir un petit peu à gauche, à droite. Et donc, si l'envie de vous promener dans Dijon en lisant Gaspard de la Nuit vous prend, ce qui est sûrement une bonne idée, d'après moi, c'est quelque chose qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie, je pense. Sachez, j'ai appris vraiment la veille de l'enregistrement de cette émission par mon amie Laurine, que notre ami Aloysius, on pouvait le rencontrer. Non, on peut aller rencontrer Aloysius Bertrand, car son buste est exposé au jardin de l'Arquebuse. Donc voilà, si jamais l'envie vous prend d'aller lire quelques poèmes devant le mec qui les a écrits, moi je pense que de là où il est, ça lui ferait très plaisir de savoir qu'on l'a pas oublié. Et enfin du coup, à la question « Est-ce qu'il faut lire Gaspard de la Nuit ?» moi j'ai un ultime argument, c'est oui, parce qu'il faut lire plus de poésie. Voilà, globalement, je trouve qu'on ne lit pas assez de poésie, c'est un problème de notre époque, alors qu'on en a rarement écrit autant. Et il y a encore des poètes en prose qui valent vraiment le détour. Et alors moi, je pense directement à deux autrices. Je pense à Valérie Rousseau, dont j'adore le travail, mais surtout à Cécile Coulon, à qui on doit le recueil En l'absence du capitaine, et dont le style, il est vraiment délicieux. Ça se lit absolument tout seul, c'est royal. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ça. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Et il y a des comparatifs qu'on peut faire avec Bertrand, notamment dans le fait que le lieu qu'elle va décrire va être à la fois théâtre et à la fois sujet de son texte. Même si Cécile Coulon, elle est quand même plus orientée nature que ville, ça reste une lecture que je recommande chaudement avec grand plaisir. J'adore Cécile Coulon, c'est une très bonne autrice, et pour avoir déjà un petit peu assisté à des moments où elle prenait la parole, je trouve aussi que c'est une personne très agréable à écouter. Donc Cécile Coulon, pouvait y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi je vais vous remercier d'avoir suivi cette deuxième déclassification littéraire sur Gaspard de la Nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot, par Aloysius Bertrand. J'espère que ça vous a donné envie de lire un peu de poésie, j'espère que ça vous a donné envie de lire Aloysius Bertrand. En tout cas, moi j'ai été vraiment ravi d'en lire pour vous. Et dans le prochain épisode, j'aurai l'immense plaisir de vous parler d'un roman que j'aime beaucoup, un roman finlandais qui s'appelle Le Meunier Hurlant, qui a été écrit par Arto Pasilina. C'est un roman qui est modérément connu, d'un auteur qui est un peu plus connu que ça. Et voilà, on prendra le temps d'en parler ensemble la prochaine fois. D'ici là, lisez de la poésie. C'était Ray Malville, merci de m'avoir écouté.